Vous écoutez, on lit pour vous.
Maman, je ne suis plus dans la rue. Un texte de Rima El Khoury, paru le 3 février 2025 dans la presse. Voilà près de 2 ans qu'un couple de sans-abri vivant avec une déficience intellectuelle était réfugié dans le métro, comme l'a révélé une enquête de la presse. La publication de ce reportage leur a permis de trouver, enfin, un toit. Récit d'un sauvetage en plein naufrage. La première chose que Mélissa a demandé à faire en arrivant à la maison chez Lise, c'est appeler sa mère. « Ça l'inquiétait beaucoup que je sois dans la rue », a soufflé la jeune femme. Sophie Noreau, infirmière clinicienne et gestionnaire de cette maison de chambre de Longueuil, lui a aussitôt tendu son téléphone. « Allô, maman? C'est moi. C'est juste pour te dire que je ne suis plus dans la rue. On est dans une chambre à Longueuil », a-t-elle dit, sous le regard ému de l'équipe d'intervenants qui sait trop bien à quel point la route a été longue et semée d'obstacles pour Mélissa et son amoureux Jérémy. « On vient juste de sortir de la rue », a-t-elle répété à sa mère, comme si elle peinait encore à y croire. À son côté, son amoureux l'écoute avec un grand sourire, l'air plongé dans une douce béatitude. Au bout du fil, la mère de Mélissa semble rassurée. « Je suis contente que vous soyez au chaud. » Voilà près de 2 ans que Mélissa et Jérémy, qui vivent avec une déficience intellectuelle, étaient réfugiés dans le métro de Montréal, comme le racontait récemment ma collègue Caroline Touzin. Ils ne demandaient pas la lune. Ils demandaient juste un toit. Un toit ensemble et un peu de dignité. En pleine crise du logement et des services publics, ça semblait mission impossible. Jusqu'à ce que leur histoire soit médiatisée et que l'on se demande. On est vraiment rendu là. La crise de l'itinérance est-elle devenue si grave que notre système tolère qu'un couple en situation de handicap, connu de 2 Sius et du curateur public, vive dans une station de métro durant 2 ans? Notre filet social est-il si amoché qu'il condamne à la rue les plus vulnérables? Vendredi en matinée, ce qui semblait jusque-là impossible est devenu possible. À 10h45, après une dernière nuit passée sur le sol froid du métro Radisson et de l'entrée d'un immeuble résidentiel, Mélissa et Jérémy ont été accueillis dans leur nouveau chez eux. Ils y auront enfin une chambre à eux, déjà meublée, avec un lit à 2 places, des draps propres, un petit frigo, une table, 2 chaises et une petite télé. « Wow! Je vais pouvoir écouter les feux de l'amour !» s'est exclamée Mélissa tout sourire en entrant dans la chambre. « Pas capable, les feux de l'amour !» a répliqué Jérémy en rigolant. « Moi, je vais écouter le hockey !» Ils sont arrivés sans manteau, accompagnés par leurs travailleurs sociaux. Pour tout bagage, Mélissa avait un petit sac à dos. Elle avait hâte d'enfin pouvoir prendre une douche chaude. Julie Saint-Jean, éducatrice spécialisée qui veille sur les 130 chambreurs, lui a aussitôt remis du savon, du shampoing, une brosse à dents, des serviettes, des sous-vêtements neufs. La jeune femme, vêtue d'un chandail kangourou et d'une simple jupe laissant ses jambes à découvert, n'en avait plus. Mylène Thériault, la stagiaire qui épaule Julie, a aussi trouvé des vêtements de rechange et une veste chaude pour Jérémy. On s'est assuré de les mettre à l'aise et de répondre à tous leurs besoins. « Est-ce qu'il y a des choses qui vous stressent ?» leur a-t-on demandé d'emblée. Mélissa a demandé s'il était possible de dormir avec les couvertures qui leur servaient de lit dans le métro. Pour cette première nuit dans leur nouveau chez-soi, ce serait particulièrement rassurant pour son amoureux, très attaché à sa grosse couverte douce. « Pas de problème », lui a répondu Julie. « On va mettre les doudous dans la laveuse et elles seront propres ce soir. » Mélissa et Jérémie semblaient aux anges. « Je me sens bien ici », a dit la jeune femme de 32 ans. Elle, qui avait confié à ma collègue Caroline vouloir à tout prix un toit avec son amoureux, elle avait hâte de lui montrer que son souhait avait été exaucé grâce à son reportage. « On va l'accueillir bien comme il faut », a-t-elle lancé avec fierté en balayant du regard son logis modeste comme s'il s'agissait d'un palace. Et d'une certaine façon, ce l'est pour des gens comme Mélissa et Jérémy, qui ne cadrent pas dans les petites cases du réseau public. Sophie parle avec passion de chez Lise, comme de son resort coloré. Ici, on pallie les défaillances du système de santé. On prend toujours les plus mal pris. Les cas les plus complexes, dit l'infirmière qui porte le projet à bout de bras avec son équipe, sans aucune subvention gouvernementale. Dans ce resort atypique, tout est inclus pour les locataires, des repas au dentifrice en passant par le lavage et le ménage. On inclut aussi, bien sûr, la bienveillance d'une petite équipe au grand cœur qui travaille main dans la main avec les intervenants du réseau de la santé et des services sociaux, rassemblant tout un village autour des locataires. À Mélissa et Jérémy, Sophie a dit « C'est votre chez-vous ici ». Avant de les laisser aller prendre cette première douche chaude qu'ils attendaient depuis trop longtemps, elle a ajouté « Vous avez de quoi être fier parce que vous n'avez pas eu un parcours facile. Un sauvetage au cœur du naufrage. C'est après avoir pris connaissance de l'enquête de la presse sur ce couple de sans-abri du métro que Sophie Noreau a levé la main pour dire qu'elle serait prête à l'accueillir sous son toit. Le matin de la publication du reportage, la gestionnaire de chez Lise a été réveillée par Marilène Vandal, policière réseau du service de police de l'agglomération de Longueuil, SPAL. Elle m'a appelée à 6h30 en me disant « Sophie, voyons, tu n'as pas une chambre de libre, tu ne penses pas qu'on pourrait les aider, je vais aller les chercher au métro s'il le faut ». Une chambre venait justement de se libérer dans le bloc des Tranquilles, une section du resort où on trouve surtout des personnes âgées. Julie s'est assurée qu'on la nettoie pour qu'elle soit prête à accueillir le couple dans l'urgence. Et on a tout de suite pris contact avec les équipes traitantes du couple ainsi que la curatrice qui veille à la protection de Jérémy. On travaille beaucoup avec le curateur public et la collaboration est exceptionnelle, souligne Sophie. Tout le monde a travaillé d'arrache-pied pour faire en sorte que la solution proposée se concrétise. La maison chez Lise est-elle la ressource idéale pour Mélissa et Jérémy? Peut-être pas, mais en l'absence de ressources d'hébergement adaptées à leurs besoins, ça demeure une avenue prometteuse. Entre chez Lise et le métro Radisson, ça me semble quand même pas pire comme option. Sophie Noreau, gestionnaire de chez Lise. Avant d'aller de l'avant avec le déménagement, l'infirmière a voulu s'assurer que Mélissa et Jérémy, qui sont suivis par deux Sius différents à Montréal, ne perdent pas leur service en changeant de territoire. Quand on transfère des gens, parfois, il y a des ruptures de service. On l'a souvent vécu chez nous. Il fallait s'assurer d'avoir le feu vert des gestionnaires pour que, s'ils ont besoin de services dans le 514, ils soient assurés que ça perdure dans le 450. Ma seule condition, c'était que les gens ne soient pas laissés à eux-mêmes chez nous parce qu'ils traversent le pont. C'était aussi une préoccupation de Mélissa, qui avait de bons mots pour les intervenants qui suivent le couple. L'infirmière se réjouit que la condition ait été respectée grâce à la collaboration des gestionnaires et des travailleurs sociaux. Il y a eu beaucoup de flexibilité de leur part. Ça démontre que, lorsqu'on pense un peu en dehors de la boîte, ça fonctionne. On n'a souvent pas idée de ce qui se passe en coulisses pour venir en aide aux plus vulnérables de la société, souligne-t-elle. des intervenants du réseau public qui se démènent pour le bien de personnes vulnérables, quitte à travailler durant leur heure de lunch et bien au-delà, elle en croise tous les jours. Il y a beaucoup de monde dévoué et ultra qualifié qui travaille dans ce milieu. C'est juste qu'on a tellement peu de moyens. Et puis, aussi dévoué soit-il, aucun intervenant ne peut inventer en un claquement de doigts des ressources d'hébergement adaptées qui n'existent pas. Pour mener le radeau de Mélissa et Jérémy jusqu'au rivage, toute une équipe de sauveteurs a dû ramer très fort, à contre-courant d'un système bureaucratique. Je trouve que c'est tellement une belle chaîne de réaction, dit Sophie. Tout ce que ça prend, c'est que tout le monde travaille dans le même sens. C'est ce que je retiens de cette histoire. Je suis bien fier des réponses de tout le monde. Pour moi, tant que l'on arrime les services et s'assure qu'il n'y a pas de rupture de service, tout est possible. Même les missions soi-disant impossibles. Cela dit, si j'ai poussé un soupir de soulagement en voyant que Mélissa et Jérémy avaient enfin droit à un toit et à un peu de dignité grâce à notre enquête, je reste inquiète pour tous les naufragés de l'ombre vivant une situation semblable dont l'histoire n'a jamais été médiatisée. Sachant que les personnes ayant une déficience intellectuelle sont surreprésentées dans la rue et que les ressources adaptées à leurs besoins sont insuffisantes, on ne parle pas ici d'un cas isolé. La tragique réalité, c'est qu'une fois ce cas individuel réglé, on n'a malheureusement pas réglé grand-chose. Le problème structurel, qui fait en sorte qu'un nombre croissant de personnes parmi les plus vulnérables de notre société tombe entre les mailles de notre filet social, reste entier. Un sauvetage réussi ne nous autorise pas à fermer les yeux sur le naufrage que vivent les autres. C'était « Maman, je ne suis plus dans la rue », un texte de Rima El-Khoury paru le 3 février 2025 dans La Presse.
« 20 ans pour le seul gymnase adapté en Mauricie », un texte de Stéphane Laroche paru le 3 février 2025 dans l'Hebdo Journal. Adaptaform, le seul centre de conditionnement physique adapté en Mauricie, a récemment célébré son 20e anniversaire. Au fil de ces deux décennies d'existence, on estime que 500 personnes ont pu bénéficier des services et équipements à la disposition des personnes vivant avec un handicap ou une difficulté motrice, pour qui la forme physique représente un facteur important du maintien d'une certaine autonomie. Le kinésiologue Martin Fizet, vice-président du conseil d'administration, a cofondé le centre en 2004. On a décidé de créer l'organisme parce qu'on trouvait qu'il n'y avait pas de place à Trois-Rivières, en Mauricie, pour les gens qui ont une situation de handicap pour avoir des services personnalisés et plus appropriés. Le cofondateur, François Dubois, est très impliqué dans d'autres organismes avec les personnes handicapées. Lui aussi voyait bien ce besoin-là pour les personnes handicapées de se maintenir actifs et de garder leur autonomie. On a créé un OSBL. On a réussi à le faire fonctionner à partir de subventions qui venaient principalement de l'Unité régionale de loisirs et de sport. J'avais demandé au directeur général du centre de réadaptation s'il était prêt à égaler la mise pour pouvoir acheter l'équipement. Adaptaform est installé à même les locaux du service de réadaptation en déficience physique, anciennement le centre Interval, au centre multiservices de santé et de services sociaux Cook. Du lundi au jeudi, de 16h à 19h, les membres viennent s'entraîner sous la supervision de kinésiologues qui leur conçoivent des programmes d'exercice adaptés à leurs conditions. Le SUS met le local à notre disposition. L'Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées nous a subventionnés. Il y a beaucoup d'équipements qu'on a achetés récemment grâce à ces subventions-là. Il y a aussi la Fondation Interval et le Fonds d'aide des bingos de Trois-Rivières. Le Centre de conditionnement physique compte actuellement plus de 80 membres. Différents types de clientèle peuvent bénéficier des installations du gymnase adapté. La plupart viennent de Trois-Rivières, mais c'est offert à toute la Mauricie. Il y a une clientèle qui est issue de la réadaptation qu'on fait dans le jour. La suite logique de ça, c'est qu'ils ont beaucoup d'acquis qu'ils ne veulent pas perdre après. Ils veulent se garder actifs. Il y en a qui ont des handicaps qui datent de la naissance ou d'événements qui sont arrivés qui n'ont pas eu nécessairement de réadaptation. C'est ouvert à eux aussi. Depuis quelques années, on a des gens qui ont une déficience intellectuelle qui viennent. On a ouvert un créneau plus large. On a une clientèle de plusieurs horizons. Pour ces personnes, l'entraînement n'est pas seulement une activité de loisir, mais bien une façon de demeurer autonome. Pour une personne en situation de handicap, ce n'est pas seulement pour être en forme. On touche la condition physique, la santé, mais surtout l'autonomie. On le voit avec les gens qui s'absentent de l'entraînement. On a juste arrêté 2 semaines pendant la période des fêtes, puis je me suis fait dire que ça paraît à la maison. Ça a un impact sur l'autonomie des gens. L'exemple de Marc. Marc Bélanger s'entraîne chez Adaptaforme et siège au conseil d'administration de l'organisme. Il y a 10 ans, il a reçu un diagnostic de myélite sarcoïdique à la moelle épinière. Une sarcoïdose, c'est un foyer d'infection qui ressemble à des tumeurs. Ça part, ça revient. J'ai eu un œdème dans la colonne vertébrale. J'ai été 4 mois à l'hôpital et 1 an en interne, dans un lit. Quand je suis arrivé ici, je bougeais mon bras juste assez pour peser sur le bouton. La machine me permettait, avec mes bras, de faire bouger mes jambes. C'est revenu tranquillement. Les médecins disaient que je n'allais plus marcher. Et là, je marche, dit Marc Bélanger. Il y a une partie de l'adaptation qui se fait ici, ajoute Martin Fizet. Quand les gens sortent de l'hôpital et qu'ils ne sont pas assez autonomes pour retourner à domicile, ils viennent ici. C'est une unité de rétention fonctionnelle intensive. Ils ont beaucoup de thérapies, ergo, physio, kinésio, pour aller chercher l'autonomie. Marc est passé par là. C'était une maladie plus rare. Ça sortait du cadre ordinaire. Habituellement, les gens restent de 4 à 8 semaines. Il y a des cas où ça exige qu'ils restent plus longtemps. Lorsque Marc a reçu son diagnostic, sa vie a basculé. Le gros de la patente, c'est la résilience. J'avais 54 ans, nos enfants étaient grands, on commençait à vivre notre pré-retraite. Je faisais de la moto. Puis là, boum, ça arrive. Martin, quand il a pris charge de moi, il m'avait donné un cahier de tous les services que je pouvais avoir. On a regardé tout ça parce que c'était nouveau. Il a fallu que je déménage, que je fasse adapter ma maison. Les ergos m'ont aidé à faire le plan pour bénéficier du programme d'adaptation de domicile. On a eu un service impeccable. Aussi, j'ai pu reprendre la conduite automobile. Marc parle de résilience, mais une des valeurs qu'on vit ici, c'est qu'il y a beaucoup de solidarité entre les gens, il y a beaucoup d'entraide. La résilience, c'est de voir que tu es encore capable de faire des choses comme les autres. Les gens qui viennent ici, ils s'aident, ils se parlent, ils se comprennent. C'était 20 ans pour le seul gymnase adapté en Mauricie. Un texte de Stéphane Laroche, paru le 3 février 2025 dans l'Hebdo Journal.
Une pépite québécoise, le 388, se heurte à un réseau en santé mentale sourd et aveugle. Un texte de Jessica Roy Desruisseaux, Joël Assoun, Mathieu Titley, Éric Chiasson et Mathieu Leblanc, paru le 5 février 2025 dans Le Devoir. Médecin psychiatre de Sherbrooke, nous apprenons avec stupéfaction la fermeture très prochaine du 388, un centre de traitement psychanalytique pour patients psychotiques situé à Québec. Au sein du service public en santé mentale, il s'agit d'un centre dont le travail remarquable auprès de jeunes patients initialement très malades permet pour une très grande partie d'entre eux une réinsertion citoyenne et sociale sans pareille grâce à l'originalité du traitement. Chacun de nous, psychiatres et résidents, professionnels, intervenants en santé mentale du Québec, des États-Unis, de France, de Belgique, d'Argentine, venus au 388 comme collaborateurs, stagiaires ou visiteurs avertis, peut témoigner que les résultats obtenus sont directement et absolument liés à la psychanalyse renouvelée développée au groupe interdisciplinaire freudien de recherche et d'intervention clinique, GIFRIC, partenaire du service public depuis plus de 40 ans. Une psychanalyse reconnue comme une innovation extraordinaire, adaptée aux défis posés par la psychose. Chaque usager est accompagné en tout temps, il n'y a jamais d'interruption de soins ni de changement d'intervenant fréquent, par une équipe multidisciplinaire spécialement formée qui assure un traitement articulé aux effets de la cure psychanalytique. Même les épisodes de décompensation psychotique sont pris en charge sur place pour la majorité d'entre eux, par la même équipe, avec le même indéfectible engagement. Car les services au 388 fonctionnent 24 heures par jour, 365 jours par an, ce qui permet une diminution drastique des hospitalisations, et ce, au long cours, ainsi qu'une réarticulation sociale exceptionnelle. Le Centre 388 recevait en 2022 la médaille de l'Assemblée nationale du Québec. Sur le plan international, le traitement unique prodigué au 388 est reconnu aux États-Unis et dans plusieurs pays d'Europe, partenaires du GIFRIC. Comme il se doit en matière d'innovation, les pratiques au 388 ont fait l'objet en 2002 d'une évaluation menée par une équipe d'experts impartiaux mandatée par le ministère de la Santé, tant auprès de l'équipe clinique qu'auprès des usagers, de leurs familles et des professionnels du milieu. Un travail clinique rigoureux pour des résultats probants a été souligné et retenu. Le traitement a été validé comme sécuritaire dans tous ses aspects, respectant les meilleurs standards de la psychiatrie, documentation comprise. En 2006, des chercheurs des universités Columbia de New York et Harvard de Boston, dans une étude commandée par le National Institute of Mental Health sur les pratiques facilitant le mieux la réinsertion sociale des personnes souffrant de troubles mentaux graves, retenaient dans leurs recherches un seul centre en dehors des États-Unis, le 388. Alors, pourquoi cette décision précipitée qui jette les usagers et leurs familles dans l'angoisse? Il faut savoir, pour un jeune qui rechute, ce qu'une hospitalisation en psychiatrie signifie de désarroi, de perte d'espoir, de rage impuissante, sans compter le risque qu'il s'en prenne à lui-même, voire à un proche dépassé et souffrant. Des coûts trop élevés seraient en cause. Mais on fait toujours fi à la fois des coûts évités par la diminution des hospitalisations à moyen et long terme et des coûts sociaux réduits par le retour possible à une vie active. Sans compter le mieux-être sans pareil, l'espoir qui revient, l'engagement du jeune, jusque-là rétif, dans son traitement, sa liberté de parole recouvrée, tout cela est impossible à comptabiliser. Nous refusons absolument cette chronique d'un désastre humain annoncé sans un sérieux examen des résultats obtenus au 388, lesquels ont été publiés en 2024. Les chiffres, puisqu'on nous en parle, sont précis. Le 388 s'inscrit depuis des décennies dans le réseau public en santé mentale. Il y a toute sa place parmi d'autres modalités de soins et d'accompagnement de nos jeunes patients psychotiques. Au surplus, qui accepterait, dans d'autres champs de la médecine et de la clinique, qu'un traitement innovant soit ainsi balayé pour le seul motif du coût? Faut-il croire que la santé mentale de ceux qui vivent de manière récurrente des périodes si douloureuses et leurs conséquences ne justifie pas le meilleur pour le plus grand nombre? C'est ainsi que nous souhaitons, pour nos patients et leurs familles, que cette modalité d'approche de la psychose leur soit offerte ailleurs qu'à Québec, dans notre province. C'est aussi ce que souhaitent ardemment pour d'autres les usagers du 388. C'était une pépite québécoise, le 388 se heurte à un réseau en santé mentale sourd et aveugle. Un texte de Jessica Roy-Desruisseaux, Joël Assoun, Mathieu Titley, Éric Chiasson et Mathieu Leblanc, paru le 5 février 2025 dans Le Devoir.
Chambly, un équilibre à garder pour les enfants TSA. Un texte de Jean-Christophe Noël paru le 5 février 2025 dans le Journal de Chambly. Des mères d'élèves vivant avec un trouble du spectre de l'autisme, TSA, craignent de voir leur enfant changer à nouveau d'environnement scolaire en raison des enjeux d'espace de l'école secondaire de Chambly. Le fils de Jenny Bélanger vit avec un TSA. Il est dans une classe d'enseignement spécialisée Accès. Celle-ci accueille des élèves ayant besoin d'un enseignement structuré et individualisé, tant pour les apprentissages que pour les habiletés sociales et pour la communication. Quand on les sort de cette stabilité, il y a un risque, dit Jenny Bélanger. Plusieurs écoles à son dossier. Elle est préoccupée par les enjeux d'espace de l'école secondaire de Chambly. Elle raconte que son fils a été barouetté dans son parcours scolaire. Au primaire, il est allé à l'école Madeleine Brousseau. Du régulier, il est passé en classe restreinte, en adaptation. Il a plus tard été retiré du programme régulier du ministère de l'Éducation et est passé en modification scolaire. Sous ce statut, il est question que l'élève n'obtienne pas son diplôme de cinquième secondaire. Il a complété ce cycle à l'école Carignan-Salière. Une patate chaude. Il est donc entré en modification à l'école secondaire du Mont-Saint-Bruno. Sa mère a redoublé d'ardeur pour qu'il retourne en adaptation en suivant le programme régulier. Après 2 ans en adaptation à Saint-Bruno, il a été envoyé à l'école secondaire de Chambly. C'est un équilibre fragile que vit cette clientèle. Une fois qu'on l'a trouvé, cet équilibre, c'est intéressant de le garder, résume-t-elle. Mélanie Saint-Germain est également maman d'un garçon aux prises avec un TSA. « J'ai l'impression que mon enfant est une patate chaude dont on veut se débarrasser au plus vite », estime-t-elle. Jenny Bélanger soutient que la stabilité de l'environnement d'un enfant TSA est particulièrement importante, notamment en matière de gestion d'anxiété. Quand on les sort de cette stabilité, il y a un risque. C'est important de le considérer quand on prend la décision de changer ces jeunes d'école. Le bien-être des élèves ne pèse pas suffisamment dans la balance, comparativement aux finances, cite Mme Bélanger. On a l'impression que les chaises et les bureaux sont plus importants, renchérit Mme Saint-Germain. Les deux mères craignent un décrochage scolaire de ces jeunes, vulnérables au changement. C'était Chambly, un équilibre à garder pour les enfants TSA. Un texte de Jean-Christophe Noël paru le 5 février 2025 dans le Journal de Chambly.